Vous écoutez Europe 1, il est midi.
Là, on n'en peut plus, quoi. On peut pas vivre sans convivialité, sans partage. Il faut que ça ouvre.
En avant pour la réouverture des restaurants. Zone verte, ce sera mardi prochain. Explication avant d'inviter Gérald de Passeda, chef triplement étoilé Pierre du Petit Nice à Marseille.
Et nous passerons aussi par Perpignan où, vous venez de l'entendre, les restaurateurs ont déposé toc et tablier pour dénoncer la méthode. L'autre actualité, c'est le yo-yo dans les écoles. D'abord frileux de remettre leurs enfants because Covid. Voici que les parents de retour sur site ne comprennent pas que l'école refuse leurs enfants. Le détail à suivre et nous recevons la porte-parole de la PEP parents d'élèves.
Stop Covid, tout est prêt avant ratification par le Parlement. Cédric O, secrétaire d'État au numérique, a même passé l'appli au crible des hackers.
On a pris, nous, toutes les garanties possibles. Les hackers sont payés pour venir attaquer l'application, nous révéler si jamais il y avait des failles.
Dans ce journal également, les Balkany jugés plus sévèrement en appel. Les fraudes au chômage partiel, il fallait s'y attendre et certains se sont fait piéger.
Pour moi, le chômage partiel, ça n'a rien changé. Je continue à bosser comme avant. Quoi.
Le détail là-dessus. Tout le monde dit plouf. À quand la réouverture des piscines? Le gouvernement va choisir certains établissements pour tester l'eau. Nous inviterons les élus de La Rochelle qui se portent candidats. SpaceX ou l'Odyssée de l'espace façon Elon Musk. Lancement tout à l'heure aux États-Unis. Alain Sirou pour en savoir plus. Et puis le foot. Il n'y aura pas de Ligue 2 à 22. Le COMEX de la Fédération vient de trancher. La météo, Céline Dacosta, et l'été continue.
Mais oui, 23-28 degrés, c'est la moyenne aujourd'hui sur l'ensemble de la France avec un soleil généreux. J'ai quand même trouvé quelques nuages et je vous dis où à la fin de ce journal.
Merci Céline. Météo complète, juste avant 13h sur Europe 1.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Couteau à droite, fourchette à gauche, les restaurateurs, Pierre, dressent les tables en zone verte.
Puisqu'ils seront autorisés à rouvrir le 2 juin, c'est-à-dire mardi prochain, mais le protocole reste drastique. Carole Ferry.
C'est un document de 10 pages qui recense toutes les exigences du protocole par thématique, avec des cas très concrets. Les menus, par exemple. Il faudra choisir de préférence les solutions sans contact, présentation à l'oral, sur une ardoise ou par QR code sur le téléphone portable. Quand il n'y a pas d'autre choix qu'un menu papier, il faudra se désinfecter les mains avant de le consulter. Autre cas très concret, les buffets. Buffet d'entrée, buffet dessert. Ils resteront autorisés à condition d'organiser un sens de circulation et d'avoir un marquage au sol quand il y a la queue. Pareil pour les toilettes, il faudra que la file d'attente signale bien les distances de sécurité. Pour la séparation des tables, c'est donc la distance d'un mètre qui a été retenue. Des tables qui pourront accueillir 10 personnes maximum et devront être servies par une seule personne. Quant au personnel, eh bien, il devra se laver les mains toutes les 30 minutes ou porter des gants. Enfin, chaque établissement devra préciser le nom du référent chargé de veiller à ce que toutes ces règles soient bien respectées.
Et face à ce protocole très strict, les restaurateurs qui n'en peuvent plus d'attendre ont fait des rassemblements un peu partout en France pour dénoncer aussi cette décision soudaine et peu préparée. Benjamin Peter, vous êtes à Perpignan où une action des restaurateurs a eu lieu en plein centre-ville ce matin.
Oui, et symboliquement, les chefs ont déposé leur veste et leur toque à terre tout à l'heure pour manifester leur crainte de tout perdre. Ils le disent, ils ont besoin d'ouvrir leur restaurant le plus vite possible. C'est le cas de Marc qui tient l'Arbre à Vin, un bar à tapas.
Là, on n'en peut plus, quoi. On peut pas vivre sans convivialité, sans partage. Il faut que ça ouvre. Il faut que ça ouvre. Et puis, sur le département, c'est vrai que là, aujourd'hui, il n'y a plus de cas de contamination. Les gens font des efforts. On est tous avec les masques, des protocoles simples. Et je pense que ça le fera. Ça le fera.
Le protocole sanitaire, beaucoup l'ont parcouru. C'est le cas d'Edith qui tient le restaurant Le Grilladou. Elle aurait voulu qu'une date soit fixée plus tôt pour leur permettre de s'organiser.
J'ai commencé à donner des directives pour le service de salle, le service de cuisine, mais on ne va pas faire une formation comme ça en une heure. Hein. Moi, je vois par exemple d'une salle à l'intérieur qui a de 36 couverts, je passe à 15, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est ça qui nous attend, donc on va avoir une grosse baisse de chiffre d'affaires, ça c'est certain.
Et ces pertes, c'est ce qu'ils redoutent le plus, c'est la raison pour laquelle ils réclament un maintien des dispositifs d'aide sur les charges, peut-être sur la TVA, et surtout que les assurances jouent enfin le jeu alors que beaucoup peinent encore à se faire indemniser.
Merci Benjamin. Peter à Perpignan pour Europe 1.
Bonjour Gérald de Passeda.
Oui, bonjour.
Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1, chef 3 étoiles à Marseille, chef du Petit Nice. Vous êtes prêt, vous, pour le 2 juin ?
Je m'y prépare, forcément, mais disons que je fais partie, malheureusement ou heureusement, des privilégiés. Car on a déjà des tables espacées d'un mètre, voire de plus, dans le restaurant 3 étoiles. Quoi qu'il en soit, pour les autres propositions dont je suis le principal investigateur, à savoir le Mall Passeda au Mucem, je vais avoir un petit peu plus de problèmes, et encore plus de problèmes à la brasserie du Lutetien à Paris. Quoi qu'il en soit, j'essaie de mettre et de me référer à toutes ces nouvelles règles sanitaires pour être vraiment...
Quand vous dites « je vais avoir des problèmes », c'est des problèmes vis-à-vis des gestes barrières, bien sûr.
Je pense que les gens, vous savez, on va leur imposer décemment, le plus décemment possible, le plus poli, avec la plus grande politesse possible, ce qu'ils devraient faire lorsqu'ils vont pénétrer dans le restaurant. Mais connaissant l'humain, est-ce que cela sera respecté ou pas? J'en sais rien. On ne peut pas en être garant. Quoi qu'il en soit, je m'engage à respecter toutes ces règles-là à la lettre, bien forcément, et bien évidemment. Mais là où ça blesse un petit peu, c'est, je pense à tous mes copains et mes amis qui ont des restaurants de plus petite capacité, qui n'ont pas des terrasses comme moi je peux avoir au Petit Nice, et un hôtel où je puisse faire du room service adéquat, qui n'ont pas la surface nécessaire pour espacer. Là, ça va être très problématique pour le chiffre d'affaires, forcément.
Pour le service aussi, ça s'avère compliqué.
Absolument. Ça va être compliqué. Je pense que nos clients, nous autres, vont devoir s'armer de patience, comme ils le font actuellement, lorsqu'on va déposer un chèque à la banque ou lorsqu'on va acheter quelque chose dans un magasin, parce que tout ceci va être plus lent par la force des choses, par tout ce que l'on nous impose, que l'on nous demande de faire.
Ouais, Gérald...
Je trouve ça... voilà, c'est compliqué. Mais je pense qu'il va falloir que les clients vraiment puissent jouer le jeu pour qu'on puisse réussir justement à casser cette barrière qu'on est en train de mettre entre la convivialité, l'amour de la réception des gens et puis l'envie de faire de la cuisine. Voilà.
Justement, face à cette barrière, Gérald Paceda, certains disent, et ce sont souvent ceux qui ont des petites surfaces, qui disent c'est trop tôt, on n'y arrivera pas, et si moi je dois ouvrir 4 tables au lieu de 20, je m'en sors pas, donc je préfère qu'on n'ouvre pas et je préfère toucher les aides de l'État. Est-ce qu'ils ont raison de dire ça?
Exactement, ils ont raison. Mais moi je pense qu'il faut ouvrir à tout prix, bien entendu, parce que je suis un battant. Comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs dans ce métier, et nous faisons un métier qui est assez rude, et on le voit en ce moment, on en prend plein la tête, si je puis dire. Mais oui, ils ont raison, parce que forcément, si on a 50% ou 60% du chiffre d'affaires en moins, ça va être très compliqué de donner le même service, la même qualité, et on a envie de donner la même qualité, voire mieux que d'habitude, parce qu'on arrive dans une ère où la naturalité fait légion, si je puis dire, où le bien-être devrait être rétabli de plus en plus, où l'accueil du client devrait être encore plus chaleureux vu les mauvaises conditions actuelles dont on a eu par le Covid-19, etc. Mmh. Donc je pense qu'on est à même, si vous voulez, notre profession, déjà, c'est régenter ces règles sanitaires, au demeurant, on sait le faire, avec la HACCP, etc., etc. Maintenant, on nous impose quelque chose de plus drastique. On va s'y appliquer à le faire, mais je pense que dans l'avenir, ce qui va bouleverser la situation, c'est qu'on sera de plus en plus proche du client, même si on doit avoir quand même une certaine distance, forcément, oui. Mais beaucoup plus d'empathie et beaucoup plus d'amour.
Proche du client sans être proche, on a compris le message. Merci beaucoup Gérald Paceda, chef triplement étoilé. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi.
Il est midi 8.
Europe 1.
À suivre, le retour à l'école, oui, mais pour qui et dans quelles conditions? Vous allez voir que les parents haussent le ton, car évidemment, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. À tout de suite. Il est midi 11, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin. En attendant ce que doit préciser demain le gouvernement, Pierre, pour les lycées, les écoles n'accueillent toujours pas l'intégralité des élèves.
Et la situation a changé depuis lundi, notamment où beaucoup de parents ont retrouvé le chemin de leur travail sur site. Ils se retrouvent avec leurs enfants. Et la bonne solution, évidemment, c'est l'école, d'autant qu'ils sont maintenant en majorité rassurés sur la situation sanitaire.
Ouais, sauf que bien sûr, cette bonne situation sanitaire n'est possible qu'avec les gestes barrières et donc avec moins d'élèves en classe. Et certains parents, Virginie Salmen, mettent la pression, ils ne comprennent pas pourquoi on ne veut pas de leurs enfants.
Oui, les parents ont besoin de retourner travailler. Alors pour l'instant, 20% des élèves peuvent être accueillis à l'école en maternelle et élémentaire, mais aucun des trois enfants d'Esther, de 3 à 11 ans. Elle travaille dans le secteur du luxe en région parisienne. Elle a besoin de retourner physiquement dans ses ateliers. Elle bataille depuis la mi-mai.
De semaine en semaine, on nous a fait miroiter de l'école pour les plus grands, puis pour les fratries, puis finalement pas de place. C'est encore plus compliqué à gérer que si on nous avait dit c'est non.
En fait, il faut que le protocole évolue, sinon c'est pas possible.
Et la pression du bureau se fait nettement sentir selon Aurélia, mère parisienne de deux enfants.
Le travail reprend à 200%, et même si c'est en télétravail, on est quand même censé travailler. Même quelques jours dans la semaine, ça ferait beaucoup de bien.
Alors du côté des professeurs, on entend cette demande légitime. Françoise Popineau, représentante des enseignants du primaire SNUIPP, se sent prise en étau entre les parents, le protocole sanitaire et les déclarations du gouvernement.
Un discours assez confus des hommes politiques, en tout premier lieu du ministre de l'Éducation nationale, qui laisse entendre que progressivement on prendra de plus en plus d'enfants, alors que le protocole ne le permet pas.
Et pour l'instant, côté ministère, il n'y a aucune indication à ce stade d'un assouplissement du protocole sanitaire.
Merci Virginie Selmen. Bonjour Cécile Frattaroli.
Bonjour.
Porte-parole de la PEP et présidente de la PEP Paris, pardon, mais ces parents dont on parle, ils pensent que parce qu'ils ont repris le travail, tout d'un coup on va réintégrer tous les élèves ?
Je pense que c'est pas vraiment ça qui se passe aujourd'hui, c'est que le protocole sanitaire, tout le monde l'a bien compris, est très contraignant. Et l'incompréhension des familles aujourd'hui, c'est surtout ce qui se passe d'une école à une autre au sein du même protocole sanitaire. On dit 20% des élèves, mais il y a quand même qui sont accueillis, mais il y a quand même des écoles qui arrivent à accueillir 50% des élèves. Donc aujourd'hui, ce qu'on ne comprend pas, c'est l'interprétation de ce protocole en fonction de l'école. On comprend que chacun a sa spécificité en fonction de ses locaux, mais pourquoi dans certaines écoles on n'accueille que 5 enfants dans un groupe d'élémentaire alors
que les écoles n'ont pas la même taille, tout simplement. Certaines écoles parisiennes, par exemple, sont petites, exiguës, donc les classes ne sont pas forcément très adaptées.
On a bien compris, mais en réalité, quand on est sur le terrain et qu'on parle aux autres, on se rend bien compte que les tailles de classe, elles sont certes différentes, et ça on peut l'entendre, mais elles ne sont pas différentes pour tout le monde. Il y a des groupes scolaires où les écoles sont côte à côte et elles n'ont pas le même traitement d'une école à une autre. Donc c'est bien que ça manque quand même de clarification, ça manque de règles. Donc il y a eu beaucoup de souplesse laissée à chaque directeur et à chaque enseignant sur sa reprise, sur comment l'organiser. Mais en réalité, aujourd'hui...
Oui et non, parce que les directeurs d'établissement ont bien dit qu'ils avaient des protocoles très très clairs et très drastiques.
Le protocole est clair, il y a des distanciations sociales à réserver. Il y a un groupe maximal. Mais aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe quand même. Il y a des écoles qui choisissent de constituer des groupes à la semaine pour les enfants de personnel sensible et qui ne bougent pas ces groupes, même si les enfants ne viennent pas. Donc il y a des groupes qui sont à 3 par classe, alors qu'ils pourraient être jusqu'à 10 ou 15. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Il faut appeler les familles, il faut être beaucoup de flexibilité.
À chaque problème, une solution. C'est quoi la solution, Cécile Frattaroli?
Aujourd'hui, ça manque de clarification et ça manque d'une règle qui soit un peu plus... même si chaque école doit garder sa spécificité et tenir compte de ses locaux, mais il faut que le protocole soit... L'application de ce protocole soit clarifiée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à des parents « Votre maîtresse ou votre maître ne revient pas, donc votre enfant ne sera pas accueilli même s'il est en CM2, alors qu'il fait partie du groupe prioritaire d'un point de vue pédagogique. »
Donc vous souhaitez qu'on étudie en priorité la situation des parents pour dire oui ou non, votre enfant peut être remis à l'école?
En fait, ce qu'on souhaite, c'est que les réponses soient les mêmes pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on ne dise pas dans une école, votre enseignant n'est pas là, donc votre enfant ne peut pas être accueilli. Et dans une autre, on dit, votre enfant est accueilli parce qu'il est en CM2, effectivement, il doit être accueilli. Voilà, donc
c'est la règle,
elle doit être la même
pour tout le monde. C'est le chien qui se mord la queue, Cécile Frattaroli. Vous savez très bien, et Raphaël Duchemin l'a dit tout à l'heure, les écoles n'ont pas la même taille. Alors, on fait quoi? On prend des grandes salles polyvalentes et on met le même nombre d'élèves? Pardon, mais c'est une question mathématique.
Non, mais je veux bien répondre à votre question mathématique. Certes, les écoles n'ont pas la même taille, mais elles ont... Quand vous avez une école avec 10 classes, vous n'avez que 4 classes utilisées sur 10. Expliquez-moi pourquoi ça n'est pas possible d'accueillir les autres. Vous allez me dire, c'est l'espace et l'accueil. On peut espacer les accueils, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc pourquoi il n'y aurait pas des enfants dans chaque classe?
D'accord.
Et alors certes, il n'y aura pas 25 ou 30 enfants dans chaque classe, mais il peut y avoir 10 à 15 enfants par classe.
Ça, c'est du concret.
Je suis désolée.
J'y vois plus clair. Non, mais j'y vois plus clair. C'est quand même beaucoup mieux comme ça. Merci beaucoup, Cécile Frattaroli, d'avoir été avec nous en direct dans Europe Midi. Le MEDEF lui demande 10 000 euros pour chaque apprenti. L'UP2 demande une prise en charge de leur salaire, mais clairement, les apprentis et les alternants, qui en 2019, faut le compter, sont 485 000, eh bien, ils sont dans la panade avec la crise du Covid-19.
Et pour le président des apprentis de France, Aurélien Cadieu, il faut les aider, d'autant que c'est en ce moment qu'ils doivent trouver une entreprise pour leur alternance.
La difficulté en ce moment pour les jeunes qui veulent devenir apprentis, c'est de trouver une entreprise qui veuille bien les recruter pour la rentrée. Puisque les entreprises sont en confinement ou en déconfinement, en reprise d'activité, elles ont d'autres priorités en ce moment que de recruter des apprentis, et elles en auront certainement d'autres d'ici septembre. Donc pour les jeunes, ça va être très difficile d'avoir des retours des entreprises, voire même de signer des contrats d'ici septembre ou même octobre. La problématique, c'est que si passé les 3 mois après leur formation, les jeunes n'ont toujours pas trouvé d'employeur, ils sont obligés de quitter le CFA et de trouver une autre solution. Le risque, c'est qu'il y a un nombre de décrocheurs assez important, un tout petit peu après la rentrée, à partir du moment où ils ne peuvent plus rester au CFA. Nous, notre principale demande auprès du ministère du Travail pour éviter cette situation, c'est de permettre aux apprentis à la rentrée de rester pendant toute l'année scolaire au sein du CFA, même s'ils ne trouvent pas d'employeur, et de suivre sa formation normalement, avec des stages pour malgré tout avoir le côté pratique.
Aurélien Cadieu, président de l'Association des apprentis de France.
L'annonce a été faite il y a 48 heures, Pierre. Les entreprises vont devoir plus compenser pour le chômage partiel. L'État ne pouvant pas continuer à assurer l'intérim du secteur privé.
Et surtout, l'État va renforcer les contrôles car certains patrons n'ont pas hésité à abuser de leurs employés. D'un côté, ils les mettaient au chômage partiel pour toucher l'aide de l'État, mais de l'autre, ils les faisaient travailler. Élise Dangean a pu en contacter quelques-uns.
Pour moi, le chômage partiel, ça n'a rien changé. Je continue à bosser comme avant. Quoi.
Depuis le 17 mars dernier, ce salarié d'une PME est au chômage partiel complet, en tout cas administrativement, car dans les faits, il n'a jamais cessé de travailler à la demande de son patron.
Moi, je lui dis, écoute, ça ne me pose pas du tout de problème. Quoi. Lui, il est gagnant. Moi, tant que je n'ai pas de perte de salaire, franchement, ça ne me gêne pas du tout. Quoi.
Et si ce salarié n'a pas perdu un centime, c'est parce que son employeur a compensé à 100% son salaire. Théo, lui, n'a reçu aucun ordre de son entreprise, mais il a voulu assurer ses arrières étant payé à la commission. Ce commercial automobile a donc traité quelques devis.
Bah, c'est quand même un secteur hyper concurrentiel, donc sinon on ne répond pas, une autre marque peut très bien répondre et du coup on peut rater l'affaire. Quoi.
Pour éviter ces abus, un vaste plan de contrôle a été mis en place avec le mois dernier 300 personnes embauchées pour renforcer les directions du ministère du Travail en région. Pour rappel, cette fraude est considérée comme du travail illégal, passible de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende.
Élise Dangean, les chiffres de l'INSEE aujourd'hui qui confirment que le PIB devrait chuter d'environ 20% au deuxième trimestre, mais que l'activité repart prudemment mais nettement depuis le déconfinement. De meilleures couleurs pour Renault, qui bondit de plus de 19% en bourse après le soutien gouvernemental et le plan stratégique. Les trois marques de l'alliance, Renault, Nissan et Mitsubishi, ont décidé de construire les futurs modèles sur des bases communes. Et puis on apprend à l'instant que la Commission européenne propose un fonds de relance de 750 milliards d'euros pour faire face à la crise économique dans l'Union européenne.
Il est midi 19.
Europe 1.
Restez avec nous, Mélanie Gomez va nous rejoindre pour répondre à vos questions santé. Et puis on parlera aussi de Stop Covid. Serez-vous volontaire pour télécharger l'appli? Si vous avez des doutes, Clément Le Saffre a testé pour vous. A tout de suite.
Il est midi 22, la suite de votre journal, c'est avec Pierre de Villeneau et Raphaël Duchemin.
C'est une journée décisive, Pierre, pour Stop Covid, l'application qui doit permettre de tracer volontairement les personnes ayant été en contact avec des malades grâce à notre smartphone et soumise au vote du Parlement aujourd'hui.
Oui, et si ce Parlement vote le projet, Stop Covid sera disponible eh bien, dès ce week-end. Bonjour Clément Le Saffre.
Bonjour Pierre, bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Vous avez pu tester donc cette application en avant-première. À quoi est-ce qu'elle ressemble?
Bien voilà, je l'ai avec moi, elle est sur mon téléphone en ce moment même, elle est activée et je peux vous dire que c'est une application très classique, presque enfantine à utiliser. Dès que vous l'ouvrez, vous avez une première chose, c'est que vous voyez les informations qui sont stockées, recueillies par l'application, où est-ce qu'elles vont et qui peut y accéder. Une fois que vous avez validé ça, eh bien, il y a une deuxième étape, c'est d'autoriser le Stop Covid à utiliser le Bluetooth de votre téléphone. C'est grâce à cette technologie qu'elle repérera les autres utilisateurs à proximité. Il n'y a pas de géolocalisation, tout passe par le Bluetooth. En cas de contact prolongé à moins d'un mètre avec un malade, l'appli vous enverra une notification vous invitant à vous faire tester.
Et comment ça fonctionne dans l'application?
Eh bien, c'est vraiment très très simple aussi. En fait, il faut tout simplement l'activer. Voilà, la mienne là, typiquement, est activée. Elle marche en fond de mon téléphone. C'est très simple. Sur la page d'accueil, il y a un gros bouton. J'active Stop Covid. Si vous cliquez, l'application se met en marche, elle tourne dans le fond du téléphone et si vous recliquez, elle se désactive. Ça se fait vraiment facilement si vous n'avez pas été malade.
C'est jour-nuit quoi. Hein.
C'est exactement ouais. Voilà, c'est un interrupteur, on peut dire ça. Si vous n'avez pas été malade, c'est le cas de la majorité des gens, eh bien pour vous l'appli elle s'arrête là, pas besoin d'aller plus loin. En revanche, si vous avez eu le coronavirus, il faut se signaler dans un deuxième onglet qui est en bas de l'application, l'onglet « Me déclarer ». Vous allez devoir fournir un code qui vous a été donné par votre médecin ou le laboratoire qui vous a testé. Ce code, il est unique et ça permettra de faire en sorte qu'il n'y ait pas de fausses déclarations qui viendraient fausser les résultats. Reste maintenant eh bien, à savoir si l'application fonctionne en conditions réelles, si elle repère bien les cas contacts dans les zones très densément peuplées, le métro par exemple.
Oui.
Et puis, reste à savoir aussi si elle est suffisamment sécurisée. Depuis hier soir, des hackers éthiques triture Stop Covid dans tous les sens pour détecter la moindre faille. Réponse de ces hackers gentils qui nous aident dans les heures ou les jours à venir.
Et bien justement, en ce qui concerne les hackers, Cédric O, le secrétaire d'État au numérique qui pilote justement cette appli au nom du gouvernement, a ce matin sur Europe 1 confirmé que le système a été soumis à des attaques de pirates informatiques pour s'assurer de sa fiabilité.
Je ne peux pas dire que le système est infaillible. Aucun système technologique, même les systèmes des plus grands États, n'est infaillible. Ce que je sais, ce que nous avons fait, c'est que l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques, l'ANSSI, ont été impliqués. On a pris toutes les garanties possibles. On a lancé ce qu'on appelle un bug bounty ces derniers jours, c'est-à-dire des hackers sont payés pour venir attaquer l'application, nous révéler si jamais il y avait des failles. Il y a encore quelques jours de travail. Ce que je comprends des premiers résultats, c'est que, comme on dit, la surface d'attaque était limitée. Et donc, ils trouveront des choses. Ils trouveront des choses. Dans les bug bounty, on trouve toujours des choses. J'espère que ce sera le plus limité possible. Mais en tout cas, on a pris, nous, toutes les garanties possibles.
Cédric O, ce matin, sur Europe 1 avec Sonia Mabrouk. Vote de l'Assemblée nationale à 15h et du Sénat tout à l'heure à 21h30.
Midi 25, l'heure de retrouver la spécialiste santé d'Europe 1. Bonjour Mélanie Gomez.
Bonjour Mélanie.
Bonjour Raphaël, bonjour Pierre, bonjour à tous.
Elle répond tous les jours à vos questions et notamment à la question de Madeleine qui est à Aix-en-Provence. Madeleine a 69 ans. Elle nous dit qu'elle a été vaccinée contre la grippe à l'automne. Est-ce que cela a pu la protéger contre le Covid qu'elle n'a pas attrapé depuis le début de l'épidémie ?
Alors tant mieux, hein, on est ravis évidemment qu'elle ne l'ait pas attrapé, mais non Madeleine, on ne peut pas dire ça. En tout cas, à ce stade des recherches, aucune étude n'a démontré que le vaccin contre la grippe saisonnière hein, pourrait protéger contre le SARS-CoV-2. Enfin, peut-être qu'on va finir par montrer quelque chose en ce sens, mais à ce stade, rien ne permet de l'affirmer. En revanche, vu que vous évoquez le vaccin contre la grippe, j'en profite pour insister sur un point. La plupart des médecins le disent dès aujourd'hui, il faudra vraiment à l'automne prochain que les personnes à risque, donc par exemple tous les gens de plus de 65 ans, les personnes cardiaques, les femmes enceintes, les patients souffrant d'obésité se fassent le plus souvent, le plus possible vacciner contre la grippe. Ce sera particulièrement important l'hiver prochain car si le coronavirus actuel devait devenir saisonnier et faire son retour à ce moment-là, eh bien on pourrait se retrouver avec les deux épidémies en même temps et un système hospitalier à nouveau complètement débordé. Donc pour éviter ce scénario catastrophe, il faudra vraiment que les personnes fragiles soient plus massivement vaccinées contre la grippe, en tout cas plus que cela n'a été le cas ces dernières années.
Mélanie, Romain nous pose cette question de Rouen. On entend dire que les personnes guéries du Covid ont parfois une longue rééducation qui les attend. C'est quel genre de rééducation ?
Alors tout dépend bien sûr de l'état de chaque patient et même pour tous ceux qui ont été hospitalisés, tout dépend aussi de la durée de séjour, par exemple en réanimation, de la durée d'alitement aussi. Alors quand on parle de rééducation, en tout cas pour ceux qui ont eu vraiment une infection très grave, c'est vraiment une rééducation globale, à la fois physique, après des semaines ou des mois dans un lit d'hôpital, ces patients ont souvent perdu beaucoup de masse musculaire. D'une part, ils ont des difficultés à tenir sur leurs jambes, à marcher tout simplement. Résultat pour certains, dans l'après-Covid, il y a besoin de réentraînement progressif à l'effort, des séances de kiné pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour tout simplement réapprendre les gestes du quotidien, pour pouvoir récupérer une autonomie satisfaisante. Et puis, il y a aussi toute la partie respiratoire. Évidemment, vous le savez, certains malades gardent de lourdes séquelles pulmonaires. Donc là aussi, les kinés sont formés pour faire cette rééducation qui leur permet de réapprendre à respirer tout seul. Ça démarre en général à l'hôpital, mais pour certains, cela peut durer encore un certain temps, soit dans un centre de rééducation, de réadaptation, ou même une fois de retour à leur domicile.
Merci Mélanie Gomez. À tout à l'heure, 15h pour Sans Rendez-vous. Et puis c'est au journal officiel, le gouvernement a abrogé les dispositions dérogatoires autorisant la prescription d'hydroxychloroquine à l'hôpital hors essais cliniques. Et ce, à la suite, bien sûr, de cet avis défavorable du Haut Conseil de la Santé publique Europe 1, vous révélé dès hier matin.
Il est midi 28.
Europe 1.
Vous rêvez de faire des longueurs, l'odeur du chlore vous manque. À quand le retour à la piscine ? Vous allez voir que ça se précise. Restez avec nous sur Europe 1. Il est midi 31, la suite de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Raphaël Duchemin.
Jusqu'à 27 degrés prévu, Pierre, cet après-midi dans toute la France. Franchement, on piquerait bien une tête.
Eh oui, à qui le vous dites-vous ? Et tout le monde n'a pas la chance d'avoir la mer à moins de 100 km. Restent donc les piscines orphelines de nageurs. Ça va, c'est drôle, hein ? Orphelines de nageurs depuis 2 mois. Le ministère des Sports, figurez-vous, restez sérieux, désignera dans la semaine les établissements qui testeront le protocole de retour à l'eau. À La Rochelle, la piscine Lucien Mélin, j'espère que je prononce bien, est candidate.
Bonjour Catherine Léonidas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, adjointe au maire de La Rochelle, conseillère déléguée en charge des équipements sportifs et des piscines. Vous l'attendez impatiemment, je suppose, cette réouverture.
Oui, bien sûr, ce sont surtout nos usagers, hein, ce sont surtout nos clubs, toutes nos activités qui sont attendues par la population, puisque sur trois équipements dans notre agglomération, c'est plus de 600 000 entrées par an. Donc vous imaginez l'impatience de retrouver le bassin, effectivement.
Qu'est-ce qui déterminera si on peut rouvrir ou pas ?
Alors, donc nous attendons effectivement la liste là du ministère des Sports. Mmh. Ce qui va déterminer tout ça, c'est la capacité de mise en place des protocoles de réouverture des établissements. Alors il se trouve que pendant le confinement, avec d'autres partenaires, donc moi j'étais là en tant qu'adjointe au sport et puis membre de l'ANDES, l'Association nationale des élus en charge du sport, nous avons travaillé à la demande du ministère avec une autre association qui est l'Association nationale des directeurs des services de sport et puis d'autres partenaires comme l'ICPA. Nous avons travaillé sur des protocoles à mettre en place pour que le baigneur...
C'est-à-dire, le
dispositif depuis l'entrée de la piscine jusqu'au bassin. Quel est le nouveau parcours en quelque et sorte oui. Voilà, parce que évidemment, ça va commencer par... si je veux me baigner, il va falloir que j'appelle, que je réserve un créneau, on va proposer... des créneaux d'une heure et demie, avec ensuite une demi-heure de battement entre
chaque créneau. Pour nager ou pour barboter ou pour les deux ?
Alors, pour nager, pour barboter, et donc je réserve mon créneau. Ensuite, quand j'arrive à la piscine, eh bien, je vais être dans une file. Alors, il y aura peu de personnes, puisqu'évidemment, on va adapter la surface, le ratio par personne à notre capacité de bassin. Donc, nous, on a fait un test grandeur nature lundi dernier. On avait 32 usagers, 32 baigneurs qui attendaient. Et puis ensuite, ils sont passés à la caisse. Et puis ensuite,
après, il y a le vestiaire, il y a les douches, et là, oui. Ça devient compliqué.
Voilà, ils sont allés au vestiaire. Donc là, effectivement, il y a un parcours obligé. Ils sont passés sous la douche. Là, ils avaient des agents qui les accueillaient en leur disant « Veuillez passer à la douche, savonner, etc. »
On prend la douche avec un agent qui vous regarde.
Non, l'agent est en amont. Non, l'agent vous indique bien sûr le dispositif. Puis ensuite,
Catherine Léonidas, combien de personnes au maximum est-ce que vous pensez pouvoir accueillir ?
Alors nous, on a un bassin qui fait 50 mètres de long sur 20 mètres de large et on va accueillir 32 personnes par créneau,
en temps normal.
La fréquence maximale, elle peut aller jusqu'à 1000 personnes. On n'a jamais ça.
Ça donne une idée du ratio. Est-ce qu'on peut s'attendre, Catherine Léonidas, à un retour définitif à la normale avant l'été ou pas ?
Alors, sincèrement, on l'espère. Ceci dit, nous attendons les directives du ministère, les directives gouvernementales. Nous, pour l'instant, on est prêts. Ce protocole, bien sûr, sera expérimenté pendant 15 jours, 3 semaines. Forcément, il y aura des améliorations, il y aura des changements à opérer, et donc nous serons une vingtaine de bassins sur toute la France, très représentatifs de la typologie des bassins que l'on trouve sur le territoire.
Et en fonction des résultats, on en saura plus. Merci beaucoup, Catherine Léonidas, d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi.
Et puisqu'on parle tourisme, Pierre, sachez que les deux Charentes jouent à fond la carte du voyage en France cet été.
À tel point que les deux départements, Charente et Charente-Maritime, vont offrir un billet de 100 euros pour tout visiteur. Bonjour Stéphane Villain.
Bonjour.
Président de Charente Tourisme, 10 000 bons distribués à partir du 1er juillet. Alors qu'on soit bien clair, question courte, réponse courte, c'est Charente et Charente-Maritime, les deux départements.
Voilà, c'est les deux départements, la Charente et la Charente-Maritime, qui s'associent. 650 000 euros sont mis sur la table par la Charente-Maritime et 350 000 par la Charente, ce qui fait 1 million d'euros, donc qui vont aller dans les poches des vacanciers qui vont venir nous voir cet été.
C'est 100 euros par personne ou par foyer ?
100 euros par foyer. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, on veut faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui en bénéficient. Bon, c'est relativement simple, il suffit de s'inscrire en ligne. Et puis après, on a quelques critères à répondre. C'est-à-dire qu'il faut dormir au moins 2 nuits minimum en Charente, se restaurer dans un restaurant traditionnel et visiter un site ou réaliser une activité de loisir. Et puis après, on se fait rembourser sans aucun problème les 100 euros.
Vous avez peur de manquer finalement de monde cet été ? C'est la raison pour laquelle vous avez mis cette opération en place ? C'est pour être plus attractif ?
Vous savez, la Charente et la Charente-Maritime sont des départements très attractifs. On est toujours sur le podium des destinations françaises en termes de tourisme. Mais simplement, c'est aussi une aide, voilà, à nos prestataires qui vont avoir besoin de rencontrer du monde. Ils ont besoin de retrouver le sourire. Donc voilà, c'est une opération, ça fait un peu le buzz. Et ça permet de dire, ben voilà, les Charentes sont prêtes à vous accueillir dans les meilleures conditions. Et voilà, aujourd'hui, ce dispositif fonctionne plutôt bien. Ouais.
Et est-ce que d'autres départements pourraient suivre et vous copier et vous faire concurrence?
Ben écoutez, moi je m'occupe aussi un peu de tourisme au plan national. J'espère que tout simplement l'Hexagone cette année va être très attractif. Et je pense, effectivement, vous l'avez dit, que toutes les régions et tous les départements vont se donner le relais pour recevoir dans les meilleures conditions, parce que cette année, ça va être une destination très franco-française. Bien sûr, l'ensemble des Français, mais aussi l'étranger. Donc j'y crois vraiment. Et c'est bien que tout le monde se donne le relais. Il faut cette année booster, on en a besoin.
Merci beaucoup Stéphane Villain, président de Charente Tourisme, d'avoir été avec nous en direct dans Europe Midi.
Autre destination, les Alpes de Haute-Provence, Pierre. Et pour ceux qui ne connaissent pas les mets, précipitez-vous au moins sur un moteur de recherche pour voir la beauté de ce site.
Ouais, c'est un site incroyable en effet, mais l'un de ces très gros rochers qu'on appelle les pénitents menaçait de s'effondrer. 900 mètres cubes de pierre, du coup les autorités ont décidé de le faire sauter. L'explosion est attendue tout à l'heure à 15h. Nathalie Chevance, vous vous trouvez sur place avec une partie de la population qui a dû plier bagage.
Oui, 250 personnes évacuées dans un large périmètre au pied du pénitent jusque dans le centre-ville, désormais désert, silencieux. Des riverains déplacés le temps d'une journée jusqu'au camping. Brigitte est chargée des opérations à la mairie.
On tape, on voit si c'est une personne âgée ou non, si elle peut monter toute seule au camping. Sinon, il y a des bus. On leur dit surtout de bien fermer les volets, de laisser les fenêtres ouvertes, de récupérer leurs médicaments pour la journée, les animaux domestiques s'il y en a.
Et parmi tous ces évacués, il y a Martine dont la maison avait été en partie détruite par l'éboulement du 2 décembre. Depuis relogée, elle attend cette journée entre crainte et impatience.
C'est vraiment très impressionnant ce défilé de Croix-Rouge, les gendarmes. Ça fait quelque chose, c'est très émouvant. Ouais. J'appréhende 15h. Par rapport à notre maison qui est quand même à côté encore. Et oui, il y a notre maison qui est là. C'était pas prévu qu'une montagne tombe non plus. Hein, voilà.
Et ce matin, les artificiers ont terminé d'installer les 300 kilos de dynamite sur le rocher de 2300 tonnes. Philippe Bouvet de l'Office national des forêts.
La phase de préparation essentielle était de faire beaucoup de trous dans la masse. Et on termine aujourd'hui de faire le bourrage de ces trous avec les explosifs au fond des trous. On va déclencher l'explosion pour fragmenter cette masse et la faire tomber, l'éliminer.
Et le rocher a été emmailloté dans du grillage et dans une bâche pour éviter les projections. À 15h, les sirènes annonceront le début des opérations.
Merci Nathalie Chevance. Au mai, dans les Alpes de Haute-Provence, pour Europe 1, il n'est pas encore question de voyager en avion, mais sachez qu'Air France KLM va réduire de 40% l'offre sur ses vols nationaux français d'ici à 2021 avec la fermeture de plusieurs destinations. C'est ce qu'a annoncé le PDG de la compagnie aérienne Ben Smith lors de l'Assemblée Générale.
Et les midi 40.
Europe 1.
Restez avec nous, à suivre la condamnation aggravée en appel pour les Balkany et le coup d'arrêt pour la Ligue 2 à 22. Le COMEX de la Fédération a dit non. A tout de suite. Il est midi 42, la suite de votre journal avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin. Avec le foot, Pierre, et la fin des illusions pour Orléans et Le Mans, il n'y aura pas de Ligue 2 à 22.
Et comme prévu, c'est le comité exécutif de la Fédération française de foot qui a eu le dernier mot, Cyril de la Morinerie.
Oui, et ce n'est pas surprenant. Noël Le Graët a toujours plaidé pour que l'ensemble des championnats intègrent des montées et des descentes. Le président de la fédération a donc utilisé en quelque sorte son droit de veto. Il en a le droit, c'est l'article 199 des règlements généraux qui permet à la fédération de réformer toutes les décisions prises par la LFP qu'elle jugerait contraire à l'intérêt supérieur du football. Conséquence, Le Mans, mais aussi Orléans, sont rétrogradés en national, la troisième division. Alors je viens d'avoir au téléphone le président orléanais Philippe Boutron, très triste pour ses joueurs et ses salariés, en même temps très colère contre Noël Le Graët et son COMEX.
Beaucoup de déceptions. On peut se poser la question de savoir à quoi sert la Ligue de foot professionnelle, puisque les décisions prises par cette instance sont remises en cause. Probablement pour des velléités de populisme électoral au sein de la Fédé, mais je suis surpris qu'un chef d'entreprise de sa dimension n'intègre pas les conséquences économiques. C'est très étonnant.
Pour Orléans, c'est effectivement une catastrophe économique annoncée. Budget divisé par 2, droits télé divisé par 7, 20 salariés pourraient être limogés. Mais Orléans garde espoir et va engager aux côtés du Mans un bras de fer juridique, avec sans doute pour commencer un recours devant le CNOSF.
Merci de ces précisions, Cyril de la Morinerie.
L'épilogue, Pierre, ce matin dans les dossiers Balkany. La Cour d'appel a confirmé la condamnation de Patrick et Isabelle Balkany pour blanchiment de fraude fiscale aggravée et prise illégale d'intérêt.
5 et 4 ans de prison ferme, hein, mais sans incarcération immédiate. Seul l'ancien maire de Levallois était présent, sa femme excusée pour raison de santé. Salomé Legrand, vous étiez sur place pour Europe 1 à l'énoncé du jugement et d'habitude très tonitruant. Eh bien, Patrick Balkany n'a fait aucun commentaire.
Oui, dès son arrivée au tribunal, Patrick Balkany avait l'air perdu comme sonné. Assis sur le banc, chemise saumon, pull bleu jeté sur les épaules, il a écouté la cour sans broncher. Culpabilité retenue pour blanchiment de fraude fiscale aggravée, mais aussi pour prise illégale d'intérêt. Contrairement à la décision en première instance, les magistrats estiment que Patrick Balkany a bien profité des largesses d'un magnat de l'immobilier à qui il avait confié la construction des tours de Levallois. Le tout, je cite, dans un mensonge persistant, assène la présidente. 5 et 4 ans de prison, donc, pour les époux, inéligibilité de 10 ans et confiscation de tous leurs biens immobiliers. Pour maître Pierre-Olivier Sûr, avocat d'Isabelle Balkany, c'est excessif.
Patrick Balkany a perdu 30 kilos. Isabelle Balkany était en coma artificiel pour ces derniers temps. Jamais dans une affaire de pénal financier, on a été aussi près de la mort. La question vraiment qui se pose est de savoir si tout cela n'est pas complètement disproportionné.
L'avocat de Patrick Balkany veut lui étudier la décision en détail. Ils ont 5 jours pour se pourvoir en cassation.
Merci Salomé Legrand.
Il est midi 45.
Europe 1.
Restez avec nous, on s'évade et vous avez le choix. Un voyage dans l'espace pour le premier vol habité ou une plongée dans les pages du dernier Joël Dicker.
Il est midi 48, votre journal continue avec Pierre Devineau et Raphaël Duchemin.
Cela fait des années, Pierre, hein, qu'il prépare le lancement. Elon Musk va enfin voir son rêve se réaliser. 2 astronautes de la NASA vont se lancer dans l'espace.
Le feu vert sera donné par SpaceX depuis la salle d'allumage du Centre Kennedy. Bonjour Alain Siroux.
Bonjour Pierre, bonjour Raphaël, bonjour à tous.
Bonjour.
Consultant scientifique d'Europe 1, spécialiste des étoiles. Est-ce que c'est une consécration pour Elon Musk ?
Oh, très clairement, c'est lui qui le premier a vu la façon, je dirais, de prendre le tournant historique qui est l'abandon par la NASA de l'exploitation en direct des fusées et des capsules et des navettes. Mm-hmm. Si vous voulez, Elon Musk, c'est l'homme qui a le premier fondé une société de taxi pour l'espace. Parce que ce qu'il a bâti, finalement, c'est un peu Uber, c'est l'ubérisation de l'espace, c'est-à-dire l'accès par des sociétés privées avec des fusées, des capsules, etc., à un prix défiant toute concurrence. Et donc, il a profité finalement d'une décision de Barack Obama, après l'explosion des navettes spatiales, et donc 14 morts, d'ouvrir l'accès à l'espace à des sociétés privées. Alors il est le premier, il n'est pas le seul. Hein. Et, SpaceX, c'est la première société, il y a Boeing qui est derrière, il y en a une troisième qui arrive, donc il y aura une offre assez large. Mais c'est vrai que Elon Musk est ce personnage très controversé, très discuté, qui est arrivé il y a quelques années en disant à tous les utilisateurs, ou en tout cas tous ceux qui fabriquaient des fusées et des capsules, en disant « dans 5 ans vous êtes morts parce que j'arrive et votre business, eh bien je vais le diviser par 2 ». Et il a réussi pour le compte.
Enfin, vous dites que le prix est abordable, c'est quand même pas un taxi jusqu'à la porte d'Orléans. Hein.
Non, vous avez raison. Mais vous savez, le plus important pour l'Amérique, c'est d'être indépendant. Parce que il y a une chose qui est incroyable. Vous imaginez, à Cap Canaveral en ce moment, c'est marqué « Launch America », journée historique, le président arrive, etc. N'oubliez pas que c'est quand même les États-Unis qui ont envoyé des hommes sur la Lune il y a 50 ans. Donc, envoyer 2 hommes dans l'espace, vous voyez bien que c'est pas un exploit technique si ça fonctionne, mais c'est à la hauteur de la frustration, de la dépendance aux Russes pour accéder à la station spatiale. Les Américains ont besoin de cette indépendance, de cette autonomie. Et c'est stratégique pour eux. Et changer de modèle, eh ben ça se fait pas en appuyant sur un bouton. Il a fallu 9 ans et un peu plus pour passer finalement des navettes à ce système autonome qui permettra donc à des astronautes de rejoindre la station spatiale internationale. Mais la deuxième chose qui est très importante, c'est que ça permettra aussi à des touristes de pouvoir accéder à l'espace.
Justement, vous le dites, hein, Alain, là pour l'instant ce sont des astronautes de la NASA. Quand est-ce que Pierre et moi on peut s'envoler dans cette navette pour un petit tour?
Alors très dans cette capsule très bientôt, mais il faudra négocier, Raphaël, avec votre employeur pour réussir à avoir 50 et 60 millions de dollars de disponibles. Donc les vols en fait privés devraient pouvoir démarrer sans doute à la fin de l'année prochaine, ou en tout cas peut-être même un peu plus tôt. On parle déjà d'un premier tournage, par exemple de films, Mission Impossible par exemple a été annoncé vraiment avec Tom Cruise, hein. On parle aussi d'un hôtel accroché à la station spatiale. Donc la stratégie pour les États-Unis, c'est simple, c'est tout ce qui est en orbite autour de la Terre, et en particulier avec la station spatiale, ça sera du privé et ça sera accessible à des gens qui ont beaucoup d'argent, mais en tout cas, il y en aurait suffisamment pour alimenter, je dirais, ces vols. Et tout ce qui concerne l'extérieur, c'est-à-dire les astéroïdes, la Lune et puis peut-être Mars, alors là, ça reste dans le sein propre de la NASA avec un autre fournisseur d'accès, avec une autre capsule à laquelle participent les Européens. Mais on sait que si les Américains veulent une nouvelle fois atteindre la Lune en 2024, eh bien là, ça sera des moyens bien différents de ceux qui sont mis aujourd'hui au service des astronautes pour rejoindre la station.
Et je suis sûr que vous êtes déjà inscrit pour le vol. Merci Alain Siroux. Et si on pouvait laisser Tom Cruise là-haut, ça serait quand même pas plus mal. Merci beaucoup,
donc,
Alain Siroux.
On n'est pas d'accord.
Laissez-nous Tom scientifique Cruise. D'Europe 1.
Allez, mais Céline, on vous a sonné.
Mais elle a raison. Laissez-nous Tom Cruise. Et jouez donc au loto pour qu'on puisse partir. Dans cette période un peu troublée, Pierre, on en oublierait même notre français.
Ouais, pour remettre les pendules à l'heure, la commission d'enrichissement de la langue française vient de publier de nouvelles recommandations parues au JO pour éviter d'utiliser les anglicismes. Mais alors, pas sûr, not sure at all, que ces mots entrent tout de suite dans notre vocabulaire. Hélène Terzian.
Ah, spoiler, voilà, tu m'as spoilé. Oui, alors oui.
Spoiler, je l'aime pas trop comme mot, je préfère un mot.